Vous êtes sur RTL.
9 janvier, RTL Matin.
On n'est pas forcément d'accord.
Bonjour Nicolas Domenech du magazine littéraire. Et bonjour à Guillaume Roquette du Figaro Magazine.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux en ce début d'année. 30e jour de grève, faut-il le rappeler, ce matin dans les transports. Vous êtes venu comment, RTL, ce matin, Nicolas Domenech?
À pied, en métro, mais beaucoup à pied.
Et vous, Guillaume Roquette?
Et moi, je suis venu en bicyclette.
Oh, bravo, je vous félicite. Je posais la question à Amélie de Montchalin tout à l'heure. Est-ce qu'on peut repartir au moment où nous, enfin, au stade où nous en sommes, pour un mois de grève encore, c'est-à-dire 60 jours de transport perturbés dans le pays?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le malaise persiste, qu'il n'a pas été dissipé par ces jours de relative trêve et grève aussi, ni par l'intervention du président de la République. Je veux dire par là que le sens de la réforme n'est toujours pas paru aussi évident au point de convaincre des grévistes de éventuellement reprendre le travail.
C'est le sens de la réforme voulait dire le fait que les Français perçoivent ce que nous dit le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place un système de justice pour nos retraites.
De justice et qu'on sache clairement qui sont les gagnants, qui sont les perdants, parce que du coup chacun s'imagine qu'ils vont y être de leur poche. C'est-à-dire comme ce manque de clarté, au fond, favorise la radicalité d'une partie des grévistes. C'est-à-dire puisque l'opinion reste au fond solidaire de cette grève qui gêne toujours considérablement les usagers. Donc le malaise n'ayant pas été dissipé, on voit bien qu'il y a des négociations qui se poursuivent, mais même si elles aboutissent partiellement, on se dit que la reprise ne sera pas pour tout de suite.
Oui, je pense que la grève va continuer, mais la question qui se pose, c'est de savoir laquelle, ou plus exactement, de quelle ampleur elle va être. Le président de la République, c'est une évidence, ne retirera pas sa réforme. Donc la CGT ira jusqu'au bout parce qu'elle en a fait une question plus que de principe de survie.
Il y a un affrontement idéologique au moment où nous parlons.
Oui, bien sûr qu'il y a un affrontement idéologique. Quand le patron de la CGT cheminot parle de guerre totale, quand il dit que son modèle c'est Lénine, quand vous voyez cette opposition qui est complètement jusqu'au boutiste, qui n'est pas raisonnable. La CGT, non contente de bloquer les trains et les métros, veut maintenant empêcher les Français de prendre leur voiture en bloquant les raffineries de carburant. Mais dans aucun pays adulte, des syndicats ne se comportent de cette façon, à moins qu'on veuille supprimer le droit de grève ou atteindre de façon gravissime aux droits des salariés.
Mais on fait quoi dans ces circonstances?
Eh bien, je pense que
vous décrivez très bien la situation, mais j'allais vous dire quelle peut être la réponse d'un gouvernement dans un pays démocratique face à...
Eh bien, on continue. D'abord, c'est une situation qui est très dur, extrêmement pénible pour tous les Français qui ne peuvent pas se déplacer normalement, mais je dirais que c'est gérable. C'est-à-dire que globalement, l'économie fonctionne, ça a été très difficile pour les commerçants en fin d'année, mais c'est pas le même blocage qu'en 1995. C'est-à-dire que c'est tenable. Et puis, il y a quand même une réalité qui est qu'aujourd'hui, la SNCF annonce 7% de grévistes. Oui. 7% au cœur même du réacteur de la grève qu'est cette entreprise publique. Donc ça montre bien que la France n'est pas arrêtée. Je pense que le gouvernement, il va rester dans son couloir. Globalement, il la gère, cette crise. Vous vous souvenez, il y a un an,
c'est trop de façon de gérer avec des gens qui ne peuvent pas aller travailler.
Mais oui,
qui sont,
je suis d'accord.
Vous avez une façon de présenter les choses et des maladresses continues.
Quand je dis qu'il la gère, c'est parce que bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, il y a un affrontement. Bien sûr, c'est une réforme qui ne passe pas toute seule. En plus, elle est un peu vidée de sa substance. Mais en tout cas, facialement, le gouvernement tient bon. Il n'est pas à la ramasse comme il était il y a un an, au moment des Gilets jaunes, où le président de la République ne savait plus très bien qui il était, ce qu'il devait faire et comment il devait réagir.
Pardon, juste un point, Guillaume.
Nicolas Domenech.
Pour ne pas renforcer les jusqu'au boutistes, il faut au moins que les buts soient clairement établis. Donc, ce n'est pas le cas. Je veux dire, la réforme n'est toujours pas d'une clarté d'évidence. Second point, il faut dialoguer avec ceux qui sont prêts à dialoguer. Or, jusqu'ici, la démonstration n'a pas été faite que l'acte 2 du quinquennat, qui devait être marqué par le dialogue social, soit une ouverture.
Même chose, Amélie de Montchalin, à qui je posais la question, affirme qu'au moment où nous parlons, les contacts continuent avec l'UNSA, avec Laurent Berger, avec les syndicats. Et quand je lui demande s'il y a des avancées, alors si elle me disait le contraire, évidemment, ce serait délicat, elle semble le dire avec beaucoup d'affirmations.
Non, oui, c'est clair.
Vous avez des échos là-dessus?
Oui, bien sûr. Oui, qu'il y a des discussions qui se poursuivent, mais elles se poursuivent pas de façon là aussi limpide ni claire. Je veux dire, de même que dans l'intervention du président, il n'y avait pas de, au fond, de démarche suffisamment ouverte, clairement.
Vous voyez bien, Nicolas, parce qu'avec enfin, le tableau que dessinait il y a quelques instants Guillaume Roquette, on comprend bien qu'il y a des gens, en gros, avec qui on peut discuter, et d'autres qui, de toute façon, avaient décidé, quelle que soit la présentation, le projet de la réforme, que c'était niette avant d'avancer.
Bien sûr, mais à ce moment-là, si on veut discuter avec les gens qui sont prêts à discuter, il ne faut pas commencer par leur fermer la porte sur la tête en disant, l'âge pivot, c'est indiscutable. Mmh. Et en plus, en mettant, au fond, une réforme systémique, encore une fois, mélangée avec le paramétrique, je veux dire, tout ça étant d'une obscurité totale.
Oui, mais ça s'appelle de la politique. L'objectif pour le gouvernement, c'est de ne pas perdre la face. Emmanuel Macron s'est tellement engagé sur cette réforme qui est supposée être le symbole de sa volonté de moderniser le pays qu'il ne peut pas dire OK, je recule. La vérité, c'est qu'il recule sans le dire. C'est ce qu'il est en train de faire tous les jours.
Alors justement, en prétextant de mettre fin aux régimes spéciaux, vous estimez qu'ils sont en train de préparer des régimes spécifiques ?
Ben oui, c'est ça. On remplace des régimes spéciaux par des régimes particuliers. On prend toutes les professions les unes après les autres, la police, les routiers, les danseurs de l'Opéra de Paris, et on se réunit tranquillement, on écarte les caméras en disant, vous inquiétez pas, en vérité, votre régime spécial, on va vous le laisser. Et c'est d'ailleurs ça, un vrai risque, parce que cette réforme, elle est compliquée, et là-dessus, je rejoins Nicolas Domenac, elle est très théorique, elle est inquiétante, parce que personne ne comprend exactement comment ça va marcher, mais au moins, on avait le sentiment qu'elle pouvait être juste. Si les titulaires de tous ces avantages continuent à les garder, eh bien, en plus, ce sera injuste.
Vous pensez qu'Emmanuel Macron... Pardonnez-moi, je voudrais basculer sur notre second dossier, qui est celui des municipales. Mais alors, pensez-vous justement, à la lumière de tout ce que vous venez de décrire, qu'Emmanuel Macron va d'une façon ou d'une autre le payer dans les urnes municipales ?
Écoutez, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de campagne municipale pour l'instant, mais effectivement, il se passe des choses. Alors, il se passe des choses au-delà de l'écume des jours, puisque notre actualité politique n'a été rythmée sur les municipales pendant tous ces jours que par beaucoup de rires à la suite de ce slogan de campagne à Beson, où la candidate a dit « Beson de toutes nos forces oui, et effectivement
c'est une belle résolution de début d'année.
C'est une formidable résolution que nous saluons tous. Mais à côté de ça, il se passe des choses très importantes. Qui vont aussi bien des incendies, de la Saint-Sylvestre. Je veux dire, c'est passé presque inaperçu, mais le nombre de voitures brûlées renvoie à des désordres, mais partout, enfin pas partout. Je veux dire, soyons précis, du côté de Strasbourg, du côté de la région parisienne, du côté de Lyon, etc. Mais pour les municipales, c'est un impact féroce, si j'ose dire. C'est-à-dire que pour le Front National, c'est très important. Deuxième incendie très, très important, l'Australie, je veux dire, qui va conforter les écologistes, je veux dire, les votes écologistes qui semble-t-il, se dégage.
Et troisième point, je termine. Les Verts qui viennent se passer en Autriche.
Pardon,
parce que,
oui.
Parce que et là, vous venez de nous dire les Verts et les Gris,
bien
et les
sûr.
Verts de Gris.
En tout cas, peut-être pas Verts de Gris, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dessine. Troisième point qui est en jeu actuellement, c'est au fond contraire et qui ne favorise pas le président de la République ni la République en marche, ce sont ce que vous évoquiez un peu plus tôt, les galettes des rois. Je veux dire, c'est le moment des maires sortants. Or, les maires sortants, ils ne sont pas République en marche, ils sont soit de droite, soit socialistes. Et on voit là aussi dans les sondages que c'est eux qui profitent pour l'instant de la situation.
Tout ça est très juste et c'est pas très grave pour le président de la République. Parce que effectivement, c'est plutôt les écologistes qui ont le vent en poupe. Ça peut être le Rassemblement National avec ces incidents qui sont très graves. Et je trouve que le silence du gouvernement et le refus de Christophe Castaner, lui qui aime tant envoyer 12 tweets par jour, de quand même accuser réception de l'importance de ces troubles, c'est vraiment un problème. Mais cela dit, les maires des villes concernées ne valent pas mieux parce qu'ils regardent ailleurs en disant « ça n'est pas si grave, l'important c'est le vivre ensemble ». Là, on est dans le déni, mais tout ça ne concerne pas vraiment La République En Marche, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'élus locaux, elle n'a pas de maire. C'est un parti qui est nouveau, dont la principale raison d'être est quand même d'être le fan club d'Emmanuel Macron. Donc, il n'y a pas d'enjeu réel. Et il y en a d'autant moins qu'on va avoir du mal à faire une lecture nationale de ces élections, dans la mesure où les étiquettes traditionnelles, pour savoir qui monte, qui descend, elles sont assez troublées. Je pense à toutes ces grandes villes comme Nice ou Toulon, où il y a des maires de droite qui ne le sont plus tout à fait tout en le restant et qui font des alliances avec En Marche sans le dire. Donc, tout ça, à mon avis, ne sera pas essentiel.
Il y a un enjeu spécifique à Paris ou pas ?
Il y a un enjeu très, très important, à deux niveaux d'ailleurs. D'abord symbolique, parce que c'est la capitale. Ensuite, parce qu'Anne Hidalgo a quand même un bilan qui est rejeté par une partie importante de la population, en tout cas plus que dans beaucoup de grandes villes, et que si elle l'emportait, ça serait quand même la démonstration que l'offre présidentielle n'est pas suffisante. Et ensuite, il aura peut-être une candidate plus redoutable que prévu pour la prochaine présidentielle à gauche. Madame Hidalgo.
Moi, je pense que la surprise, ce serait si la candidate de la droite, Rachida Dati, était élue. Mais sinon, que ce soit une bobo socialiste ou une bobo en marche qui remporte la mairie de Paris, je pense que politiquement, ce ne serait pas un élément essentiel. Et moi, je ne crois pas.
La Bobo en marche, c'est.
Enfin,
c'est
Benjamin Griveaux. Le Bobo, Bobo en marche, pardon.
Je cherchais dans ma tête.
Excusez-moi, je voulais dire un Bobo ou une Bobo. Je ne sais pas très bien comment ça se décline. Mais fondamentalement, ce sont les mêmes. Sociologiquement, culturellement, on sait ce qu'est devenu Paris aujourd'hui. Donc, quant au fait de savoir si Madame Hidalgo peut être un adversaire pour Emmanuel Macron, je pense que l'état du Parti Socialiste est tel qu'il n'y a pas trop de risques.
Vous avez évoqué nos danseurs il y a quelques instants, donc j'ai décidé que Guillaume Roquette était le Baryshnikov de cette émission et Nicolas Domenac le Nouraïev. Je cherche à comprendre les allusions. Guillaume, on vous retrouve au Grand Jury dimanche, dont Jordan Bardella sera l'invité à partir de midi sur notre antenne. Et puis dans un instant, on fait le point sur l'information.